Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission de la série Croire d'hier à demain, produite par l'équipe de l'Institut de pastoral des Dominicains pour Radio Ville-Marie. Au microphone, c'est Francine Robert. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une de mes collègues, Hélène Champagne, qui est professeure en spiritualité, en théologie pratique, au niveau du baccalauréat et de la maîtrise à l'Institut de pastoral. Parmi les nombreux sujets qui intéressent Hélène, elle a beaucoup travaillé la spiritualité des enfants. Elle en a même fait une thèse de doctorat. Elle va nous entretenir de ce thème des enfants sous divers angles, l'angle biblique, l'angle des enfants dans la théologie et la spiritualité des enfants. Hélène Champagne, bonjour et bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Hélène, je lisais dans un de vos textes que ce que sont les enfants, ce que vivent les enfants, ça peut nous éclairer, nous, comme adultes, en relation avec Dieu. Et j'ai trouvé ça intéressant et intriguant aussi.
On a l'habitude de penser à ce qu'on va enseigner aux enfants, à ce qu'on va leur inculquer, à ce qu'on va leur transmettre, à ce qu'ils vont devenir comme adultes. C'est rare qu'on prend le temps de se dire, mais comment je peux... pas profiter dans le sens économique, mais comment je peux bénéficier, goûter, avoir du plaisir, contempler, mais d'une façon active, être en relation avec nos enfants, de telle sorte qu'il y a un échange. L'enfant a besoin de l'adulte comme personne plus grande, plus expérimentée, pour sa sécurité, pour son apprentissage. Puis en même temps, est-ce que l'adulte, on pourrait pas avoir quelque chose qui nous est offert par l'enfant et qui nous échappe peut-être si on n'y fait pas attention.
Oui, et ça, même au plan donc de la foi ou de l'expérience spirituelle ou de la relation à Dieu.
J'aurais presque le goût de dire peut-être surtout de ce côté-là.
Donc, Hélène, vous donnez un statut important ou une place importante aux enfants. Qu'est-ce qu'ils représentent comme groupe dans la société?
Comme tour d'horizon rapide, hein, on va spontanément penser aux enfants comme promesse d'avenir. Les enfants sont notre avenir. Alors, au niveau de l'éducation, ben, s'ils ont une bonne éducation, c'est une promesse d'une meilleure économie, d'une richesse gagnée. Au niveau du travail, hein, ce sont les forces vives de demain, comment on va les former. On pense aussi à des représentations très courantes qu'on entend dans les médias sans arrêt. Les enfants sont source de richesse au niveau marketing même. La publicité est faite en fonction de ce que les enfants vont aimer manger, vont aimer s'habiller, vont aimer consommer.
Ouais.
Ce sont des consommateurs qu'on éduque à la consommation très, très jeune, il faut se le dire. Évidemment, toutes ces choses-là sont très vraies. C'est pas d'une façon directe, la perspective que je voudrais utiliser. Je voudrais qu'on puisse prendre le temps de nous arrêter aux vrais enfants. Pas juste à ce qu'ils représentent socialement ou aux images que nous avons des enfants, mais aux vrais enfants qu'on appelle Charlotte, Charlène, Jonathan, et puis Daniel, et puis tous ces petits enfants ou ces enfants plus grands qui font partie de nos familles, qui font partie de nos milieux de vie, qu'on côtoie dans la rue, au terrain de sport ou dans nos maisons. La question qui va nous préoccuper, je pense, que je vous propose pour notre échange, c'est vraiment dans une perspective de spiritualité, donc un peu mon dada.
Oui.
Hein, je me la pose à toutes sortes de niveaux. Qu'est-ce que nous sommes comme humains? Comment on se comprend comme personne humaine dans notre société, dans notre monde, dans nos familles? Donc, comment je suis en relation avec moi, avec les autres, avec mon environnement, avec Dieu? Comment je me comprends? Comment je me vis là-dedans? Ça, c'est une manière de comprendre le spirituel. Et dans ce contexte-là, comment on a été en relation avec les enfants, soit dans l'époque biblique ou soit aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut nous apprendre dans notre vie spirituelle? Comment ça va éclairer notre relation à nous-mêmes, aux autres, à l'environnement et à Dieu?
C'est parfait, ça. Alors, vous nous proposiez un programme en trois temps, point de vue biblique, point de vue théologique, point de vue spirituel.
Oui.
Alors, allons-y avec ce qui est mon dada, point de vue biblique. On ne pense jamais que la Bible parle des enfants, mais elle en parle. Hein. Vous l'avez cherché?
Oui, ben oui, c'est intéressant. On parle des enfants, mais d'une façon particulière. Le vocabulaire est varié, on le sait, la Bible a été écrite en hébreu, elle a été traduite en grec, il y a différentes versions anciennes. Les mots sont nombreux, mais ne veulent pas toujours dire la même chose qu'en français.
Oui.
Le mot enfant, comme tout petit, comme celui qui est au berceau, qui est dans les bras de ses parents, qu'on imagine comme dans son âge d'enfant, n'est pas utilisé si souvent. On utilise surtout le mot enfant dans sa compréhension de filiation. Et là, on l'a un nombre incalculable de fois. C'est en termes
d'accord.
de milliers de fois.
Est-ce que ce serait au sens où même moi, à 63 ans, je suis encore l'enfant de mes parents?
Justement.
Ce serait dans ce sens-là.
Justement.
Et ça n'est pas, bon, vous, ce que vous allez chercher, ça va être l'enfance âge.
Oui, mais je m'intéresse aux deux, dans
d'accord.
le sens où ça a quelque chose aussi à nous apprendre de notre relation à Dieu. Si on parle de cette filiation partout dans la Bible, c'est que vous vivez quand même comme l'enfant de vos parents à 60 ans, moi
vrai.
À mon âge, alors on
oui.
a quelque chose à découvrir de ça aussi. À l'époque biblique, l'importance est vraiment mise sur la maisonnée. On n'a pas, peut-être comme on s'imagine, une famille plus traditionnelle ou même une famille recomposée. C'est encore plus vaste que les modèles de famille qu'on connaît. Une maisonnée avec un clan, finalement. Des cousins, des cousines, des oncles, des ancêtres. Peut-être des gens qui travaillent pour la famille, qu'on appellera peut-être à l'époque serviteurs ou esclaves.
Oui.
Hein? Donc, une fratrie très large. Ça peut être 50, 60, 100 personnes qui vivent ensemble et qui se déplacent parfois. On est dans un peuple nomade aussi. Hein?
Oui.
Alors, la famille est comprise différemment. Et les gens, au niveau de leur identité à la fois personnelle et collective, bien, elle se comprend en lien avec ce clan-là, avec cette famille-là. Ce n'est pas un individu tout seul comme un pion sur la carte.
Mm-hmm.
C'est quelqu'un qui est membre de ce groupe-là qui fabrique son identité. Et c'est dans ce contexte-là dont on entend parler des enfants. Donc, les enfants dans un clan sont un cadeau de Dieu.
Mm-hmm.
Et c'est vrai, je pense, dans le Premier Testament, c'est vrai aussi dans les textes d'Évangile, c'est vrai partout dans les textes bibliques. Les enfants sont reçus comme une bénédiction. C'est quelque chose de bon qui arrive à la famille.
Oui.
Et on s'en réjouit. On en prend soin. Quand on pense à l'époque romaine, par exemple, hein, autour de l'an zéro de notre ère, pour dire les choses simplement,
oui.
les Romains avaient comme tradition qu'un enfant, on pouvait l'accueillir ou pas. Et on pouvait rejeter un enfant et le laisser mourir. Les pères avaient droit de regard. Est-ce qu'ils allaient reconnaître cet enfant-là comme le leur ou pas? Et l'enfant pouvait être laissé à l'abandon ou adopté.
Okay. Cette décision-là se prenait à la naissance, donc?
Oui.
OK.
Oui. Et ce n'est pas le cas pour les Hébreux.
Non, hein, jamais.
Ce n'est pas le cas non plus pour les chrétiens, qui sont aussi issus de cette tradition
oui, de
juive.
Monde.
Ça va être adopté aussi par les païens qui deviennent chrétiens. On n'abandonnera pas les enfants en bas âge. Donc, l'infanticide n'est pas une pratique des chrétiens ni des juifs. Justement parce qu'on comprend ces enfants-là comme un cadeau, comme une bénédiction. Leur vie est précieuse et on veut en prendre soin. Au niveau de la pratique religieuse, ben c'est intéressant de voir que déjà dans cette tradition hébraïque, dans cette tradition juive, les enfants participent à la vie rituelle, participent à la vie religieuse. Il y a toute la vie au temple, mais il y a toute la vie dans la famille.
Oui.
On célèbre les fêtes religieuses en famille. Alors, la Pâque, elle est célébrée dans le clan. On va partager le repas, on va se rappeler l'histoire sainte, on va se rappeler d'avoir été sauvé, d'avoir été libéré de l'esclavage. Et ça va être le plus jeune qui va demander à ce qu'on se rappelle, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et chaque geste va être précédé de cette question, pourquoi est-ce qu'on fait cela?
C'est ça, et c'est une question vraiment prévue au rituel,
oui.
et c'est prévu qu'elle soit posée par le plus jeune. Moi, je trouve ça intéressant, ce que vous dites, Hélène, cette liturgie familiale, une religion familiale, avant tout, et où il y a une sorte de dynamique de la présence de Dieu qui est presque naturelle, qui se passe pas dans les lieux sacrés, mais Dieu habite la famille, peut-on dire, la dynamique familiale.
Ça fait partie du tissu du quotidien.
Ouais.
On va aller au temple aussi, mais déjà dans le quotidien, Dieu
ouais.
est présent.
C'est comme ça encore dans le judaïsme d'aujourd'hui. Hein. Et J'imagine qu'à ce moment-là, les gens sont moins surpris ou moins fatigués que nous autres quand il y a un enfant qui pleure pendant la liturgie ou ça fait partie de la vie.
Un exemple qui redit l'importance de l'enfant, des enfants dans la tradition juive, un rabbin contemporain que j'avais rencontré dans un congrès nous racontait que un enfant n'avait pas posé les questions à une certaine fête de Pâques dans une famille. Ça ne l'intéressait pas, il était un peu blasé, puis il voulait plus. Alors, il n'a pas fait le rituel, il n'a pas posé la question. Et si l'enfant ne pose pas la question, ben il n'y a pas de rituel.
Ah, c'est vraiment comme incontournable.
C'était l'incontournable. Et okay. Là, ils en ont parlé en famille, mais là, ça ne pouvait plus fonctionner.
Lui, il en avait marre d'être le plus jeune qui posait la question depuis quelques années, probablement.
Mais s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus d'intérêt, s'il n'y a plus de quête, s'il n'y a plus de recherche spirituelle, oui. À quoi bon faire le rite?
Bien sûr.
Il y a ça aussi derrière. Oui. Et si le plus jeune, à qui on associe l'intérêt, la curiosité, la découverte, l'émerveillement, c'est celui qui devrait s'intéresser. Mais pourquoi on fait ça? C'est étonnant. Et si ça ne l'étonne plus, à quoi cela sert-il?
Ah, c'est remarquable, cette anecdote-là qui dit beaucoup. Oui, on était dans le monde biblique. Est-ce que je me souviens de certains passages des Proverbes? Pas drôle pour les enfants. Là, on vous en fait une présentation très positive de leur situation.
Il y a des textes très contrastés, on pourrait dire.
Oui.
Il y a des textes, justement, où est-ce qu'on parle de cette bénédiction. Il y a d'autres textes plus récents au niveau de l'écriture, on pourrait dire, plus proches, là, de l'époque grecque. Où est-ce que les enfants sont vus, ben, comme des gens qui causent des problèmes et qu'il faut éduquer. On doit les éduquer parce que ils ont des caprices, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils sont désobéissants. Alors, il faut un peu les encadrer, pas juste un peu. Les textes sont parfois très durs, un peu violents.
Oui.
On est dans une autre époque, on est dans un autre contexte.
Oui.
Mais il y a cette importance qu'on accorde au fait que, ben, l'enfant se soumette à l'autorité paternelle.
Oui.
On est dans un modèle de patriarcat, on est dans une autre époque, il faut le dire.
Comme dans toutes les sociétés de l'Antiquité, d'ailleurs.
Ben
c'est
oui,
pas propre
oui.
au monde juif. Et il y a certains proverbes. Vous savez, c'est un proverbe qui est l'ancêtre de notre phrase « qui aime bien, châtie bien hein? ». C'est « oui, donne des coups de bâton à ton fils, il va comprendre que tu l'aimes ».
Ben, ça pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec des textes bibliques avec lesquels on n'est pas à l'aise en termes de contexte, tout ça? Que les enfants aient besoin d'être encadrés, que les enfants aient besoin d'être suivis, d'être éduqués, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas les laisser à leur folie, si on pourrait dire. Ça, je crois qu'il y a une sagesse là-dedans
bien
aussi.
Sûr.
Comment on le fait, le moyen qu'on va utiliser, ça, c'est important de le faire de façon appropriée. Mais peut-être, moi, je retiendrai de l'enseignement, c'est vrai que les enfants ne sont pas des anges, mais ils ne sont pas non plus des démons.
Oui, puis dans une société traditionnelle, c'est sûr que l'important, c'était la transmission du modèle et que finalement, l'enfant reproduise comme adulte la société dans laquelle il grandit, parce que c'est une société qui change très, très lentement, tellement lentement que les gens voient pas que la société change. Et c'est pour ça, je pense, qu'on est mal à l'aise avec certains de ces textes-là, parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte.
Et ça nous ramène ce que vous venez de dire à la dimension de la filiation.
Oui.
Toute cette transmission, ben, elle doit passer par des codes précis puis des manières de faire qui visent à optimiser cette transmission-là selon les façons de comprendre de l'époque. Une autre façon de voir les enfants dans la Bible que je trouve très belle, c'est quand Dieu parle de ses enfants. Et de toute sa tendresse, hein. Il en a les entrailles qui frémissent, hein. Il veut que ses enfants soient heureux et toute la tendresse de Dieu passe par ce vocabulaire-là aussi. On n'est plus seulement avec des enfants concrets qui ont été les fils et les filles de, hein, mais aussi avec tout ce peuple qui se comprend comme enfant de Dieu. Et c'est une image qui est très forte et très présente, très belle. Alors, si on pouvait résumer, je vous dirais, il y a trois sens, à mon avis, puis qu'on voit aussi chez les exégètes. Les enfants comme promesse de Dieu, qu'on pense à tous les prophètes. Il y a un enfant promis, comme promesse d'avenir, comme salut, comme libération, comme le peuple espère aller mieux, et c'est un enfant qui va apporter ce mieux-être-là, dans plusieurs des textes de prophètes. L'enfant est signe de la présence de Dieu. C'est l'enfant qui rappelle que Dieu est avec son peuple. On pense au peuple de l'Antiquité qui croyait que les enfants avaient, on pourrait dire, une connexion particulière avec les dieux.
Ah, oui.
Et c'est un peu vrai aussi chez les Hébreux. L'enfant est celui qui a cette communication, cette sensibilité, on pourrait dire, avec
naturel, le... naturel, oui. Avec la divinité, avec voilà. Le divin.
Alors, on va faire des liens comme ça, justement. Et puis, comme troisième, donc promesse de Dieu, signe de présence de Dieu au présent et signe d'espérance.
OK. Et Jésus, là-dedans, il se situe dans le monde juif. Le portrait que vous venez de nous faire correspond à la société juive du Premier comme du Nouveau Testament. Est-ce que Jésus se démarque?
On est dans des zones semblables, vous l'avez dit, au niveau du contexte, au niveau de l'époque. Je lisais quelque chose qui m'a fait sourire, que j'avais jamais réalisé. Si Jésus est entouré d'enfants et que les disciples rabrouent ces enfants-là, hein, on pense tous au texte où les disciples veulent protéger Jésus d'être assailli par des enfants. C'est presque comme ça qu'on se l'imagine.
C'est vrai.
Ben, c'est donc qu'il y avait des enfants dans son entourage.
Oui.
Hein, c'est une évidence, mais qui me paraît intéressante. On va plutôt l'imaginer avec des foules d'adultes,
oui.
Mais ces foules-là incluent comporte aussi des enfants.
Et les disciples, remarquez, ça devait pas être naturel non plus qu'un maître se laisse approcher, puisque le réflexe des disciples, lorsque les enfants veulent approcher de Jésus, c'est de les éloigner.
Mais cet accueil-là de Jésus, c'est un accueil qui nous rappelle la place de tous et jusqu'aux plus petits. Et ça, moi, c'est ce qui me reste beaucoup de ces passages-là. On regardait dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans les trois synoptiques, on a des passages où on évoque hein, cet accueil de Jésus des enfants. Il y a plusieurs choses à dire sur le sujet.
Allez-y.
Une première chose, ça serait quand on interprète ce passage-là, accueillir le royaume comme un enfant, ou bien accueillir les enfants comme Jésus. Hein? Donc, accueillir le royaume comme un enfant l'accueillerait, ou accueillir le royaume comme si le royaume c'était un enfant aussi, on pourrait
okay.
dire ça de cette façon-là.
Alors, ben, pouvez-vous commenter l'une et l'autre des deux? Je trouve ça tout à fait intéressant.
Ben, d'abord, je demande parfois à mes étudiants quelle est la caractéristique des enfants qui les rendrait tellement enviables. En quoi il faudrait leur ressembler? Est-ce qu'il faut s'infantiliser? Est-ce qu'il faut devenir tout petit?
Tomber en enfance? Puis,
bon, peut-être pas, je vous souhaite
j'espère.
Pas ça. Évidemment, spontanément, les gens vont dire, ben, c'est leur innocence, c'est leur pureté, c'est leur beauté, c'est leur tendresse, c'est ceci, c'est cela. Bon. Ultimement, et ça, je trouve ça important de prendre le temps d'en prendre conscience. Les enfants, ils ne méritent pas le royaume. Ils n'ont pas les moyens de le gagner. Ils
d'accord.
ne peuvent pas travailler, devenir meilleurs. Si on pense à un tout petit, un poupon, hein, qui pleure pour boire, puis qui est content d'être réconforté dans les bras de sa mère, il ne peut pas gagner le royaume.
Ni le royaume, ni rien du tout, en fait. On lui donne en pure gratuité.
Bien sûr que lui aussi va être en relation avec sa mère.
Oui.
Bien sûr qu'il va être aussi, j'aurais presque le goût de dire, sujet. Il y a des nuances à faire au niveau de la psychologie. Mais il a une réaction personnelle.
Oui, oui.
Hein? Il est quelqu'un, quand
mais
même.
Mais il est tout centré sur lui-même et ses besoins. Il est tout
en
besoin.
Il est dans une vulnérabilité ultime.
C'est le mot, vulnérabilité. Hein?
Et dans cette vulnérabilité-là, il y a comme une gratuité. Il doit recevoir, pour survivre, il a besoin de recevoir les soins de ses parents, sa nourriture, la tendresse de ses parents. Et s'il n'est pas en situation d'accueillir, de recevoir, ben sa vie est en danger.
Il meurt, effectivement.
Et c'est peut-être dans ce sens-là que nous sommes appelés peut-être à ressembler plus aux enfants, dans une attitude d'accueil, dans une attitude d'être en mesure de recevoir. C'est un peu paradoxal de parler de ça parce qu'on est dans une société où l'individualisme, l'autonomie, la capacité d'être hein, et de se présenter avec assurance, avec compétence, avec capacité. Il ne faut pas se montrer vulnérable en société. On est dans un contexte où les valeurs sont tout à fait opposées
oui.
à cette vulnérabilité-là. Et là, j'aime faire des contrastes, je vais juste compliquer la réflexion un peu, pas pour le plaisir, mais pour la vérité de la question. Je crois que si on pense à l'infantilisme, Un adulte qui se positionnerait dans un état de vulnérabilité et de dépendance absolue serait dans l'erreur. Comme adulte, on a besoin aussi d'être responsable de soi-même, d'être responsable des autres qui nous sont confiés. C'est nécessaire que nous soyons des adultes, debout, autonomes, qui ayons une parole, qui soyons capables de défendre des causes, des personnes, des situations.
Oui, et même aux yeux de Dieu, c'est nécessaire.
Absolument.
Qu'on soit des adultes comme ça.
Ce monde-là nous a été confié par Dieu. C'est comme ça que, comme chrétiens, nous nous comprenons. Et nous sommes coopérateurs à cette œuvre-là dans ce monde. Alors, c'est important qu'on soit debout et qu'on soit pas simplement à ouvrir la bouche. Comme on dit dans le psaume, ouvre grand la bouche et moi je l'emplirai.
Oui, oui, oui. Je pense on n'est pas des oisillons que leur mère vont nourrir toute leur vie, là.
Non. Mais est-ce qu'on peut se vivre comme adulte, debout et responsable, en se sachant aussi vulnérable, en sachant aussi que nous n'avons pas le dernier mot, que nous avons l'impossible à faire et que aussi ça nous est donné. Les deux ensemble. Est-ce qu'on est capable de tenir ça ensemble?
C'est un très beau paradoxe, je trouve. Et effectivement, savoir qu'on est responsable et que pourtant, c'est pas comme ça qu'on conquiert le royaume. Ce n'est pas une réalité à conquérir, mais à recevoir,
toujours. Tout à fait, exactement. Oui. Et ça, je pense que on peut lire le texte sans aller trop dans les marges. Là. Je crois qu'il y a quelque chose de ça qui est essentiel dans le texte. Et cet accueil-là, il passe comment? Bien, les attitudes des enfants nous en parlent beaucoup quand on parle de cette joie ou de cette spontanéité. Alors là, les qualités des enfants et ce qu'on admire d'eux peuvent nous parler, mais de cette attitude d'accueil. Et là, je pense à d'autres textes. Hein. Il y avait des enfants sur les places. Et puis, quand c'était le temps de se réjouir, les gens n'ont pas dansé. Quand c'était le temps de pleurer, de s'attrister, les gens n'ont pas réagi. Alors, les enfants, il y a une espèce d'interpellation. Et comment on va vivre ce qu'il y a à vivre et qu'on va y réagir, qu'on va s'en imprégner, qu'on va l'assumer, participer.
Mm-hmm.
Voilà. Même chose pour l'arrivée à Jérusalem. Il y a des acclamations, et on reproche à Jésus de
laisser la foule crier.
Jésus leur répond, si la foule ne crie pas, ça va être les pierres. Oui. Mais ça va être ses enfants d'Abraham, mais aussi ses enfants qui sont capables de se recevoir de Dieu.
Et donc de l'accueillir avec joie et puis de fêter sa présence.
Hein, d'être dans son présent. Alors, ça veut dire, est-ce que l'enjeu, c'est un enjeu, est-ce que je vais chercher, on disait ça autrefois, je pense, ma justice personnelle à me justifier ou est-ce que je vais être capable de participer? Mais cette participation au monde, c'est une réponse, c'est comme un remerciement presque, c'est comme une gratuité en réponse à ce que nous recevons de Dieu.
Que nous recevons d'ailleurs en toute gratuité, en fait, qui nous est donné par la gratuité de Dieu.
C'est
ça
comme
fonctionne des deux côtés.
Un don et contre-don, pour utiliser une formulation autochtone.
Oui.
Hein? Et accueillir les enfants, donc ça, c'était la première description, hein? Accueillir comme un enfant et accueillir Jésus comme un enfant. Donc, est-ce que si j'accueille un enfant, si j'accueille le plus petit, si j'accueille celui qui, un enfant, ça veut dire en latin « infans », ça veut dire « sans voix ». Si j'accueille celui qui est sans voix, si je prends soin de celui qui est le plus vulnérable, comme Jésus, hein, c'est aussi une manière de faire advenir, de participer à l'advenir du royaume.
Alors, je vous demande de préciser, est-ce que vous voulez dire « j'accueille un enfant comme Jésus l'accueille » ou « j'accueille l'enfant comme signe pour moi » de la présence même de Jésus.
Les
comme
deux.
Jésus est le petit.
Oui, voilà. Donc, c'est ce que j'avais en tête, mais les deux sont vrais.
Okay.
Mais effectivement, le plus petit, c'est Jésus parmi nous. On approche de Noël. Accueillir Jésus, c'est un peu romantique. Hein? Jésus dans la mangeoire, c'est tout beau, c'est tout chaud, c'est tout sympathique. Mais prendre au sérieux que dans le plus petit et dans le plus vulnérable, Dieu se rend présent, Dieu est présent, que Dieu ne se présente pas comme un empereur ou comme un tout-puissant ou comme une multinationale, mais comme ce petit bébé vulnérable. Hein? Donc, c'est une autre relation avec l'environnement, avec le monde, avec nos proches, avec Dieu.
Et avec Dieu, bien sûr, à qui on renvoie tout le temps son image de toute-puissance. Et il n'y a pas que Noël. Vous me parliez avant l'émission de cet autre passage dans Marc et Matthieu où... les disciples demandent qui est le plus grand. La réponse de Jésus, c'est prendre un enfant sur ses genoux. Et dire, c'est lui.
Le plus grand étant le plus petit. Je pense que Jésus aime bien les paradoxes. C'est pas le premier dans l'Évangile.
Oui, c'est pour ça que je l'aime bien, moi.
Mais dans le fond, de pas chercher la tête, hein, de pas chercher à être aux premières loges, mais d'être attentif. Ça veut pas dire de se mettre à la dernière place. Ça veut pas dire de se
dévaloriser.
Pas du tout.
Non.
Ça veut dire d'être attentif à ce qu'il y a de plus vulnérable.
Et il dit bien, celui qui accueille un enfant comme celui-là, c'est moi qui l'accueille. Alors, il s'identifie bien au petit. Et si ma mémoire est bonne, dans Marc, en tout cas, il ajoute, et celui qui m'accueille, c'est Dieu. Il accueille celui qui m'a envoyé. Le petit est figure de Dieu. C'est assez intéressant, hein? Oui.
Justement, c'était le titre de ma thèse, « Dieu comme un enfant ».«
Dieu comme un enfant », c'est un très beau titre de thèse, Hélène. Je suis toujours en compagnie de ma collègue Hélène Champagne qui nous parle du thème de l'enfance. Nous étions dans l'univers biblique. Vous voulez nous parler un peu de Paul, la présence du thème de l'enfance chez Paul?
Oui, j'ai longtemps pensé que Paul en parlait très peu.
J'ai même de la difficulté à l'imaginer enfant, moi, personnellement, Paul.
C'est un personnage qu'on imagine capable de parler avec beaucoup de leadership, avec beaucoup de,
y a
de dynamisme et qu'on voit voyager partout.
Et même un ton d'autorité là, dans certaines de ses lettres. Donc, il parle de l'enfance.
Il parle des enfants.
Des enfants.
De l'enfance aussi, mais à différents titres. Alors, lui aussi utilise un vocabulaire très varié. Et sa réflexion du thème des enfants est très variée aussi. D'une certaine manière, Paul parle peu des vrais enfants ou de personnes concrètes. Il va réfléchir plus sur la thématique des enfants ou de l'enfance.
D'accord.
Sa vision de l'enfance va être conforme à celle de l'époque. À quelque part, il apporte rien de nouveau par rapport à la compréhension qu'on a des enfants. Il va en parler, par exemple, dans un contexte de développement. Les enfants sont immatures, hein, et ils vont grandir. Donc, au niveau religieux, il y a certaines communautés qui sont encore immatures et qui ont besoin de mûrir, qui ont besoin d'approfondir leur foi, leur lien au Christ, leur pratique religieuse. Donc, les enfants sont appelés à se développer, à grandir. Et on se rappelle peut-être la formulation de Paul qui souhaite à ce que les chrétiens prennent leur pleine stature dans la foi, leur pleine stature dans le Christ.
Hein? C'est bien que vous le rappeliez, parce que ça nous dit bien qu'on ne doit pas tomber dans le cliché que la valorisation de l'enfance, c'est une invitation aux adultes à agir comme des enfants.
Pas du tout.
Là, vous venez encore de le repréciser, c'est pas une fois de trop, je pense. C'est important.
Une chose qui est importante dans les textes de Paul et que nous relatent certains exégètes, il va en parler des enfants au niveau des relations. Mmh. C'est le type de relation que vivent les enfants, dont il va se servir dans sa réflexion. À un moment donné, Paul va se comparer à une mère. Par exemple, dans l'Épître aux Galates. Donc, s'il se compare comme une mère par rapport à la communauté de Galatie, ce type de relation-là dit quelque chose de sa tendresse, de son souci, de ce qu'il voudrait pouvoir leur communiquer comme une mère va le faire pour les protéger, pour les aider, favoriser leur croissance.
Oui.
Il va parler aussi des chrétiens adoptés, leur adoption comme enfants, comme fils et filles de Dieu. Alors, cet héritage qui nous est donné, et comment on va y répondre à cet héritage. Donc, on est encore dans la ligne des Hébreux, du judaïsme, dont on a parlé tout à l'heure.
Oui.
À un moment donné, les Corinthiens vont contester l'autorité de Paul. Alors, si vous vous rappelez, tout à l'heure, on parlait de Dieu qui se fait petit. C'est intéressant de voir que la façon dont Paul va répondre aux Corinthiens, ce n'est pas en se valorisant, ce n'est pas en disant « oui, j'ai raison parce que, parce que, parce que ». Il se décrit lui-même comme un avorton. Et moi, comme le dernier des derniers,
oui.
Et l'avorton étant un enfant prématuré qui ne peut pas survivre.
Qui n'est pas viable,
et
ça.
On est dans le contexte de l'Antiquité encore. On est dans un contexte où déjà l'enfant n'a pas de statut de citoyen, n'est pas une personne glorifiée
civile.
Du tout. Il n'y a pas d'identité non plus. Il fait partie d'une famille. Il est promesse d'avenir, il est bénédiction, mais il n'a pas d'importance dans la décision de la ville, dans la décision de la communauté.
Il n'y a pas de statut civil, d'ailleurs, dans le monde gréco-romain.
Aucunement. Puis c'est vrai aussi chez les Juifs. Donc, il n'est pas important dans une manière citoyenne.
Socialement, oui, c'est vrai.
Alors, Paul se décrit non seulement comme un enfant, non seulement comme un bébé, mais comme un avorton, un bébé dont la vie même est menacée. Et la survie est compromise.
Oui.
Alors, c'est le dernier des derniers des derniers. Alors, avec peu de chances de survie et donc facilement rejeté. Si ça vous intéresse pas, ben vous avez juste une petite pichenote, puis c'est fini. Pour justifier aux Corinthiens son souci de communiquer, de transmettre, de partager cette foi du Christ, au lieu de dire ben c'est moi qui ai raison, puis de monter le ton, il se place à la dernière place finalement. D'une manière,
compris l'Évangile.
Il prend ça au sérieux, Paul.
Ouais.
Dans Thessaloniciens aussi, Paul est séparé de la communauté. Il est au loin, il voyage, il continue sa mission. Il est triste, c'est une communauté qu'il aime bien et il se considère comme orphelin. Il y a des commentaires qui disent assez récemment, on a longtemps compris que c'était la communauté qui était orpheline, mais une traduction plus récente va mettre l'attention sur le fait que c'est Paul qui est orphelin. Et c'est intéressant. Ça veut dire que cette fois-ci encore, il ne se considère pas comme le parent de la communauté, mais comme l'enfant. Et donc, un enfant vulnérable, un enfant dont l'avenir, l'enjeu est dans les mains de la communauté.
Oui, et qui a même déjà reçu, puisque s'il est orphelin, la communauté a engendré en lui quelque chose, l'a engendré.
Ça, c'est intéressant
aussi. D'une certaine manière, il reconnaît qu'il l'a reçu et qu'il a besoin de recevoir ces communautés chrétiennes.
Oui.
C'est intéressant, oui.
Ça va plus loin encore, mais je crois que c'est très juste. Ça va plus loin encore que ce que l'exégèse, j'ai pu en lire. C'est vraiment, Paul est à la merci de la communauté. Ce que ça me disait aussi, c'était que Paul, il laissait toute sa liberté à la communauté.
Oui.
C'est un maître à penser, Paul. Mais en même temps, il n'a pas dominé la communauté pour lui enlever sa liberté. Il se sait aimé, mais s'il est à la merci de la communauté, c'est que la communauté peut choisir, oui ou non.
C'est intéressant comme modèle de pasteur.
Oui, absolument.
À la suite de Jésus, d'ailleurs. Hélène, vous avez fait un magnifique tour de piste de la thématique des enfants et de l'enfance dans la Bible. Est-ce que, au cours de l'histoire de l'Église, c'est resté comme ça? Bon, par exemple, la période des pères de l'Église, est-ce qu'il...
Je trouve que c'est une belle période, les pères de l'Église.
Oui.
C'est une richesse qu'on a, on a le goût de découvrir plus. On a beaucoup de textes d'inspiration spirituelle par les pères de l'Église. Au niveau des enfants, j'ai trouvé des petites perles. Je vous en partage rapidement quelques-unes. Par exemple, Clément d'Alexandrie, un père de l'Église, 150-220 à peu près, en termes d'époque. On est encore au début des communautés. Il va parler des enfants et de l'enfance, surtout. Il va servir de la métaphore des enfants pour parler de la croissance spirituelle. C'est un thème qui va revenir. Il sera pas le seul. Ils vont être plusieurs à l'utiliser. On est en développement. On est en croissance. Notre foi est appelée à grandir à la manière des enfants qui grandissent, qui se développent, qui apprennent. Pour Clément d'Alexandrie, l'enfant n'est pas dépourvu de raison. On avait tout à l'heure évoqué des textes de la sagesse et des textes de l'époque biblique où les enfants étaient très capricieux et puis un peu des rebelles qu'il fallait former.
Un animal sauvage adressé, oui.
Oui. Alors, pour Clément d'Alexandrie, les enfants ne sont pas sans raison. Ils ont déjà une forme d'intelligence. Ils sont intelligents. Ils ont déjà une forme de raison. Vous savez qu'à l'époque, on disait déjà que l'âge de raison était 7 ans.
Ah.
Que les enfants ne soient pas dépourvus de raison, ce qu'il veut dire même avant 7 ans, moi je serais portée à le croire. Mais ce qu'il dit par ailleurs, et qui est encore plus important, l'enfant est celui qui est tendu vers le haut. Quand on pense à nos jeunes d'aujourd'hui, des tout-petits, il me semble qu'ils disent encore ça, quand je vais être grand, quand je serai grand, je vais faire un pompier, je vais faire... Alors, les enfants se projettent vers l'avenir, ils se projettent vers leur vie adulte, ils admirent leurs parents, les gens qu'ils côtoient qui sont des adultes, et ils sont attirés vers c'est peut-être ce que Clément appelle vers le haut. On pourrait dire aussi, ils sont attirés vers le haut en termes de spirituel aussi, vers ce qui est grand, vers ce qui est beau, vers ce qui pourrait nous rapprocher de Dieu, pourrait-on dire, dans un vocabulaire spirituel.
Ça rejoint ce que vous disiez des sociétés de l'Antiquité où on avait l'impression que l'enfant avait quelque chose de connecté naturellement sur la transcendance.
Justement. Quand on pense à un autre père de l'Église, Irénée de Lyon, c'est important, lui aussi, dans les mêmes années, l'année 130 à 202 à peu près. Donc, quand on connaît la phrase célèbre peut-être d'Irénée de Lyon, « La gloire de Dieu, c'est l'homme debout », voulant dire aussi l'homme vivant. « Debout », ça voulait dire vivant, pleinement vivant.
Et non pas écrasé devant la toute-puissance de Dieu.
Quand on pense que la résurrection s'est redressée, il s'est remis debout, l'image est présente. Alors, Irénée va se questionner par rapport à notre liberté. Que faisons-nous de notre liberté? Et pour réfléchir à cette question-là, il va écrire un très beau texte où est-ce qu'il va parler des enfants. Comment les enfants ont à apprendre et à vivre avec leur liberté. Nous sommes comme des enfants incapables de recevoir pleinement la nourriture qui vient de Dieu. Oh, on pense à saint Paul qui avait le même langage un peu. Dans le cas d'Irénée, c'est pas un reproche. C'est vraiment pour dire Dieu est tellement grand. Dieu est tellement infini. La bonté, l'amour, la science, on pourrait dire tout ce qui est Dieu est tellement Dieu, est tellement immense et incommensurable.
Oui, et mystérieux.
Hein, pour que nous, on puisse accéder à ça, s'en approcher et goûter ça et finalement participer à cette gloire de Dieu, pour reprendre le vocabulaire d'Irénée, ben il faut y aller à petite dose, puis à petite bouchée comme du petit lait, parce que Dieu est trop grand, puis nous sommes tellement petits. Mais en même temps, ce n'est pas pour nous dénigrer, c'est au contraire, pour nous attirer vers le haut, pour nous attirer vers Dieu, qu'il prend cette métaphore-là.
Ça devient une image de notre croissance continue, on
pourrait
dire.
Tout à fait. On est attiré vers cette grandeur-là.
Donc, l'image est positive, l'image de l'enfance.
Oui. Un autre auteur, un peu plus tard, que moi j'aime beaucoup et que j'ai découvert avec enthousiasme, Jean Chrysostome. Au niveau de la famille, au niveau des enfants, il a des perles. Jean Chrysostome a été évêque d'Antioche, autour de 350-410. Il a vécu en exil, il a eu une vie très mouvementée. En même temps, il était proche des gens. C'était un vrai pasteur, on pourrait dire. Et on lui donne le surnom de Bouche d'or. C'était un prédicateur hors pair. On est à l'époque où il y a eu l'édit de Constantin et où maintenant, ça fait partie d'être citoyen que d'être chrétien. C'est devenu la religion de l'Empire. Alors, les chrétiens n'ont pas tous la même ferveur, soyons honnêtes. Il y a des raisons politiques pourquoi il faut être chrétien.
Dès que ça devient religion d'État, évidemment.
Alors, à l'époque, on a un développement incroyable des monastères, des gens qui veulent vivre le christianisme de façon radicale et qui, pour faire ça, vont comprendre que le mieux pour eux pour le faire, c'est de se séparer du monde. Et ils vont le faire dans la vie monastique. Il y aurait toutes sortes de commentaires à faire, puis il y a toutes sortes de richesses à la vie monastique. Mais le Chrysostome va mettre aussi l'accent sur la vie familiale. Et ça, on entend moins parler de ça dans nos traditions plus occidentales. Dans l'Église Orient, on a gardé cette tradition-là aussi.
Qui est plus proche de la tradition juive aussi.
Absolument, absolument. Oui. Alors, Chrysostome va mettre l'accent sur l'importance de la vie de famille. Comment on va éduquer nos enfants dans un contexte qui n'est pas nécessairement un modèle de vie chrétienne? Quel type de littérature on va choisir? Quelle ambition on va avoir pour nos enfants? Est-ce qu'on va souhaiter pour eux des postes haut placés dans la vie publique ou est-ce qu'on va simplement leur souhaiter une vie vertueuse et qu'on va travailler avec eux à ce qu'ils aient des valeurs, une vie éthique, tout ça? Et il va avoir une vision des parents et de la vie familiale. Il y a des perles là-dedans. Encore une fois, je vous transmets une phrase, une traduction. Les parents, dans leur union physique et dans leur communion d'amour, transmettent à leur enfant l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, dans ce fait d'avoir des enfants, de les concevoir, de les porter, de les faire naître, de les élever, de les éduquer, ils voient toute l'image à la fois du don de Dieu. Les enfants sont à l'image et à la ressemblance et les parents ont à participer à cela. Ailleurs, il va comparer les parents à des sculpteurs, à des gens qui ont à participer à façonner leur enfant de telle sorte qu'ils puissent réaliser cette ressemblance
de Dieu. Cette ressemblance de Dieu. C'est très beau, ça. Dans les pères de l'Église, toujours...
Pour faire suite à Chrysostome, au niveau de, dans le fond, de l'éducation, c'est un thème qui est central pour la question des enfants. Et je pense que c'est ce qui a occupé aussi la vie de l'Église pendant plusieurs siècles et qui l'occupe encore. Aujourd'hui, les questions qu'on se pose, elles sont beaucoup en éducation de la foi quand on pense à nos enfants.
Oui.
Cette éducation-là de la foi, comment on va la vivre? Comment on va aujourd'hui, comme adulte, comme croyant, dans un monde contemporain qu'on appelle postmoderne, qui se pose la question de Dieu différemment, qui cherche ses repères parfois, mais qui en même temps a des soucis au niveau éthique, au niveau qui veut vivre des valeurs vraies, qui veut être authentique. On est dans une société où l'authenticité a beaucoup d'importance, où la place du don de soi, on pense à des bénévoles, on pense à des gens qui veulent que ça se passe mieux, qui sont prêts à donner du temps, qui sont prêts à donner d'eux-mêmes pour contribuer à une société meilleure, qui se pose des questions aussi. Parfois, non. Parfois, on est un peu plus cynique, mais il y a quand même quelque chose de spirituel dans notre société. Et ça, je pense que c'est difficile de mettre ça en question. Alors, comment penser, comment vivre l'éducation de la foi des enfants? Mais moi, j'aime beaucoup aussi revenir à ma question de départ, comme on s'était dit. Comment les enfants peuvent aussi nous apprendre? Qu'est-ce qu'on peut découvrir? À quoi les enfants peuvent nous faire penser? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous rappeler dans notre vie d'adulte et qu'on a à ne pas perdre de vue ou à développer ou à approfondir? Et ça, je trouve ça important. Et je pense qu'aujourd'hui, une chose dont on a pris conscience, c'est qu'on ne peut pas, au niveau de la foi, simplement acquérir des connaissances religieuses. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus.
Oui.
Ça ne suffit pas de savoir des récits bibliques, ça ne suffit pas de savoir l'histoire de Zachée ou de la Samaritaine. Qu'est-ce que ça vient dire à ma vie? Qu'est-ce que ça vient transformer dans ma manière d'être en relation à moi, aux autres, à mon environnement et à Dieu? Et ça, c'est essentiel. Et c'est pour ça que la dimension spirituelle de l'éducation des enfants prend tellement d'importance. Depuis à peu près une vingtaine d'années, 15 pour être plus juste, on est en 2011, donc cette thématique-là de la vie spirituelle des enfants prend plus d'importance à travers le monde. Je vous dirais certainement du côté de l'Occident, en particulier du monde anglo-saxon, il y a des recherches, des publications, des livres qui ont été écrits sur le sujet.
Où donc on dit, oui, les enfants ont une vie spirituelle, c'est pas parce qu'elle ne se manifeste pas comme celle des adultes qui n'en ont pas, c'est ça?
Absolument, absolument.
D'accord.
J'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres émissions, et puis on pourrait encore approfondir le sujet. Je retiens tout ça, oui, les enfants ont une vie spirituelle. Oui, cette vie spirituelle-là a besoin d'être accompagnée, soutenue, hein, éduquée, non pas dans le sens de formater, mais dans le sens de grandir. Hein, d'attirer vers le haut. On s'inspire de Clément d'Alexandrie, mais c'est aussi ce que veut dire éduquer. Les enfants ont une manière spontanée d'être spirituels, puis en plus, on peut la soutenir, on peut l'aider à grandir, à se consolider. Au niveau de ce qui s'écrit, ce qui se publie, au niveau de la recherche, mais au niveau des groupes d'enfants que des gens à travers le monde rencontrent et avec qui ils échangent pour pouvoir...
Et vous en avez observé des groupes d'enfants, hein?
Oui.
Et je le précise pour les gens, je suis certaine qu'ils vont être surpris comme je l'ai été. C'était des enfants de 3 à 6 ans, là. On parle pas
petits.
De grands de 10 ans, là.
Des tout petits qui n'ont pas la capacité encore à 3 ans de parler de leurs valeurs et puis du sens de leur vie. Et puis,
sûrement pas.
C'est dans leur quotidien, c'est dans les petits gestes qu'on peut reconnaître ce qui se vit de relation à soi, aux autres, à Dieu et à l'environnement. Alors, dans ces recherches à travers le monde, des chercheurs essaient d'être attentifs à comment on peut la reconnaître, cette spiritualité, et comment on peut la soutenir. Il y a des thématiques qui reviennent, il y a des approches qui diffèrent, on va avoir des définitions différentes, des points de vue différents sur la manière de faire, mais il y a des grandes thématiques qui reviennent. J'avais déjà proposé 3 grands repères. Le premier, au niveau de la sensibilité, pas juste une sensibilité émotive, mais une sensibilité physique, on pourrait dire. L'enfant qui se vit dans son corps, au niveau des sens, au niveau du senti. C'est vrai aussi au niveau d'habiter sa vie. On pourrait dire ça comme ça, c'est une image, mais d'être bien dans sa peau, diraient les adultes.
Oui.
Mais l'enfant, il ne se vit que dans sa peau. Il habite son corps. Quand il est content, il saute, il court, il s'en va proche de ses parents ou il s'en va loin quand il veut explorer, qu'il se sent plus libre, plus d'espace. Je pense beaucoup aux tout petits quand je parle de ça. C'est vrai aussi des plus grands, quand ils sont plus audacieux, qui veulent faire du sport, qui veulent performer ou qui sont plus intériorisés ou plus introvertis, qui vont prendre un petit coin tranquille du salon ou de leur chambre pour faire les activités qu'ils aiment bien. Alors, l'intériorité, l'extériorité fait partie de cette manière d'être, de ce mode d'être. Et c'est aussi une manière d'entrer en relation avec soi, avec les autres, avec l'environnement. Donc, intériorité et extériorité sont des couleurs, on pourrait dire, de leur vie spirituelle.
C'est important. Donc, c'est pas juste dans l'intériorité, la vie spirituelle. Elle est aussi bien à fleur de peau. Et ben, dans les gestes.
Il me semble, dans la joie, dans la tristesse, dans les pleurs, dans les rires, dans notre expression, notre manière d'être en lien avec les autres par le toucher, par la parole.
La manière de lever les bras au ciel de joie. Et que, comme adulte, on est gêné de poser des gestes comme ça pendant les liturgies où on pourrait le faire en chantant Hosanna. Mais on le fait pas. C'est naturel, cet élan spirituel de l'enfant. Qui lève les bras.
Il me semble que c'en est un exemple où on pourrait apprendre des enfants. On pourrait se dire, mais il y a quelque chose de très humain et de très vrai que d'habiter son corps dans la prière, dans les gestes de lien avec les autres. Et comment il y a une espèce d'harmonisation ou de concordance entre ce que je vis de relationnel de ma vie spirituelle et comment mon corps l'exprime ou ne l'exprime pas. Et ça, je pense que c'est déjà un point qu'on peut apprendre des enfants.
Très intéressant.
Alors, le deuxième point, l'importance de la rencontre de soi, de l'autre, de se vivre en lien. On l'a dit au niveau de la définition du spirituel, mais c'est vrai même dans la façon dont les enfants se comprennent. J'ai rencontré des tout-petits, mais il y a quelque temps, j'ai rencontré des enfants un petit peu plus vieux aussi, d'âge scolaire, et puis je leur demandais « qu'est-ce que c'est un enfant? » Et là, des enfants de 8-9 ans m'ont répondu avec une assurance incroyable, incontestée, mais c'est quelqu'un qui vient d'un papa et d'une maman.
C'est la réponse des enfants, là.
Tout à fait. Les enfants se comprennent comme en lien. Ce qui fait qu'ils sont enfants, c'est qu'ils viennent de cette filiation dont on parlait pour les Hébreux. Elle n'a pas été apprise. Elle est la manière dont les enfants se comprennent.
Et cette identité qui est d'abord sociologique, communautaire, socio-physique, même.
Oui. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire pour aujourd'hui? Comme adultes, on a parlé tout à l'heure de se rappeler que nous sommes vulnérables, de se rappeler que nous recevons notre vie et que nous nous recevons. On pourrait développer encore sur le sujet, dire nous nous recevons de Dieu, nous nous recevons des autres aussi, nous nous recevons constamment de notre environnement. Hein, et on a à répondre de ça aussi.
Oui, ce avec quoi les enfants sont très à l'aise et nous.
C'est leur quotidien, oui. Nous, ça fait partie de notre quotidien, mais on a plus de mal à l'admettre. Les enfants qui sont en lien et qui se reçoivent de leurs parents ont un espace pour le mystère. Ils ont cette disponibilité-là. Ça fait partie du quotidien. De pas comprendre, mais d'avoir le goût de comprendre. De pas savoir, mais d'avoir le goût de savoir, puis de poser des questions. Mais il y a un espace pour le mystère. Et ça fait partie de leur vie spirituelle, on pourrait dire. Pour plusieurs d'entre eux, et peut-être qu'on pourrait nous aussi apprendre à nous rendre sensibles ou à cultiver cette sensibilité-là au mystère. Une troisième dimension, l'importance de faire sens, de se questionner, de comprendre, on l'a dit tout à l'heure, de s'émerveiller. C'est quelque chose qu'on remarque souvent des enfants, comment ils s'émerveillent. Mais l'émerveillement, il y a plusieurs aspects à l'émerveillement. C'est de trouver ça beau, de dire « ah! » Oh, wow! Mais c'est aussi de vouloir aller plus loin, peut-être, d'être curieux, de s'approcher, d'examiner. Dans notre contexte actuel, on parlait de postmodernité. Je vous lance une dernière idée là-dessus. J'essaie de la mettre en peu de mots. Le sens de notre vie, le sens de ce qui nous arrive, de notre monde, de notre environnement, il n'est plus donné d'avance. Avant, on avait un sens qui nous était proposé par la tradition, par le milieu, par la société, puis on y adhérait, puis on construisait notre vie sur ce sens-là. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Chacun est appelé à faire du sens et à construire ce sens-là. Ça veut dire que chacun est sollicité individuellement pour le faire.
C'est une grande tâche. Oui.
Une lourde tâche. Et les enfants sont appelés à le faire aussi. Les enfants aussi se questionnent, mais les enfants sont dans le même contexte que les adultes contemporains. Ils n'ont plus de sens donné d'avance auquel ils n'ont qu'à se conformer. Alors, c'est là qu'il me semble que nous pouvons dialoguer encore avec nos enfants, et encore plus, et d'une belle manière. Si nos enfants nous demandent « Pourquoi papa, c'est comme ça? » ou « Pourquoi maman, il faut dire tel mot? » ou « Pourquoi on fait les choses de telle manière? » On peut se poser la question pour nous-mêmes, mais on peut essayer de dialoguer avec l'enfant et de chercher à faire sens ensemble, en respectant que l'enfant est un enfant, il va avoir la perspective d'un enfant, et moi, comme adulte, j'ai d'autres perspectives, d'autres responsabilités qui m'incombent et qui sont importantes de distinguer. L'enfant n'est pas un adulte, et moi, je ne suis pas un enfant. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a probablement une immense richesse qu'on pourrait se communiquer, qu'on pourrait s'échanger ou découvrir ensemble dans ce dialogue. Et c'est ce que je nous souhaite, on pourrait dire.
Oui, et dans votre souhait, est-ce que vous englobez les grands-parents? Parce qu'on a parlé beaucoup des parents, mais je suis sûre qu'il y a des grands-mères puis des grands-pères qui nous écoutent.
Toutes les générations.
Oui.
Toutes les générations.
Ce dialogue-là, il est sans fin. L'enfant qu'on a été et l'enfant qu'on a devant nous.
Tout à fait. Dans le passé, dans le présent, dans l'avenir, dans l'enfant qu'on a été et dans l'adulte qu'on est aussi, qui redécouvre, qui découvre à nouveau, qui se vit au présent. Tout ça, ça se met en, comme en tissage les uns avec les autres.
Eh bien, Hélène, merci beaucoup d'avoir éclairé pour nous cet immense et beau chantier de l'enfance et du rapport aux enfants. Quelque part, il y a une invitation à respecter l'altérité de l'enfance et à l'admirer. À certains moments, je sentais que vous admiriez ce qu'il y a chez les enfants. Et ça, c'est bon de nous rappeler qu'on peut admirer, qu'on devrait admirer les enfants. Et j'aime bien retrouver ça dans la tradition juive et chrétienne dont je suis l'héritière, Hélène. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Un grand merci à Hélène d'avoir partagé avec nous cette réflexion qui prépare bien Noël, je trouve. Évidemment, la fête des enfants, mais aussi la fête de ce qu'on pourrait appeler l'esprit d'enfance. Au microphone, c'est Francine Robert. Je vous remercie d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Cette série « Croire d'hier à demain » est produite pour Radio Ville-Marie par l'équipe de l'Institut de pastoral des Dominicains. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.